Bonjour, bienvenue à l'épisode 27 de la French Connection. Cette semaine, je suis avec Vincent.
Salut tout le monde!
Essentiellement, cette semaine, nous allons faire un recap de la présentation que Vincent a donnée à la SIC sur la protection des informations stratégiques et confidentielles. Et avant de commencer, je vais faire quelques shameless plugs. Propos du Hackfest Québec Sec le 22 février, les étapes d'un incident de sécurité dans une perspective juridique par Maître de Rico. La SIC, le prochain événement est le CQSI. Au moment où on enregistre, c'est le dernier moment du premier stade de rabais. Au moment où vous allez écouter l'épisode, on tombe au deuxième où c'est des tarifs pré-vente. Donc, vous avez encore du temps pour profiter d'un certain rabais sur l'événement. Et finalement, l'événement d'Isaka, qui est le 27 février prochain, la transformation des TI dans les entreprises de l'époque de l'info nuagique, puisque nous n'avons pas tellement le choix, nous y allons. Donc, fin des HMS Blog, Vincent, introduis-nous le sujet que tu nous as entretenu dernièrement de la SIC.
Oui, en fait, protéger les informations stratégiques et confidentielles, c'est une présentation que j'ai donnée où, par des exemples de mandats, on vient évaluer. Et on est en mesure, en fait, d'évaluer le degré de protection des informations stratégiques des entreprises. Écoutez, par divers mandats, je pense que j'en ai plusieurs à mon actif. Il y a beaucoup de répétitions, comme par exemple des mandats sur la gestion des accès, gestion des dérogations. C'est des choses qui reviennent, je vous dirais, régulièrement. Ça fait 14 ans que je fais ça. C'est des tests que je fais au moins une fois par année. J'ai fait beaucoup d'entités où d'où l'information stratégique est très différente. Pour certains, c'est de la clientèle, d'autres, ça peut être des brevets, un autre, c'est de l'information bancaire, de la tarification actuarielle, peu importe. Les mêmes mandats s'appliquent, peu importe la situation, faut protéger l'information.
Ah ben, je pense que dans ces conditions-là, je pense que l'information, c'est bien de la qualifier beaucoup plus largement que ça, parce qu'on a tendance à parler de l'information purement confidentielle ou personnelle dans certaines occasions, notamment la stratégique, et nous ramène au fait que c'est de l'information qui est critique pour l'entité dans laquelle cette information-là vit.
Oui, ben c'est un petit peu comme ça que j'ai introduit le sujet en donnant une définition de information stratégique pour pas la qualifier uniquement de bancaire, par exemple, ou des clients. C'est l'essence qu'on met dans le moteur pour que la voiture puisse avancer. Si on n'en a plus, ben on survit pas. Alors, faut bien la protéger.
Ben, c'est ça qui fait que soit nos entités privées ou réussissent à générer un profit de leur croissance et les entités publiques. Dans le fond, c'est généralement les informations du citoyen, donc on a tendance à ça, mais c'est une information qui est excessivement importante à protéger qui fait toute la différence.
Oui. La présentation, en passant, ne contient pas de recette sur comment protéger. C'est quoi le moyen que vous utilisez pour la protéger? Si c'est de l'information qui est physique, on va parler à une banque, on va parler à une voûte, on va parler à barrer les portes, à gérer des accès physiques. Si l'information est numérique, ben ça commence par protéger le média sur lequel elle se trouve, protéger la façon dont on va y accéder. Faut toujours justifier puis donner une raison justement pour accéder à cette information-là. Puis par sa définition, par sa qualité en fait, ben on est en mesure normalement d'y donner un degré de protection jugé adéquat. Et en passant, c'est toujours une gestion de risque. C'est pas parce qu'une institution deux institutions qui vendent le même produit protègent l'information différemment que c'est des mauvaises façons. Il y a les mauvaises façons, les mandats que je fais, c'est pour les déceler justement pour qu'on corrige le tir.
Effectivement. De là, tu as décliné trois lignes de défense au niveau de la gouvernance de la protection.
Alors oui, les fameuses trois lignes de défense, une petite expression qu'on utilise depuis quelques années maintenant. Première ligne étant la fonction gestionnaire, donc les opérations. Quand on parle de protection d'informations stratégiques, ben ça démarre par les opérations parce que eux, ils en ont besoin justement pour atteindre leurs objectifs d'affaires. Donc la première ligne, c'est de s'assurer, ça commence par l'employé. jusqu'en fait à la production, à la transformation, puis à la production de l'information. Donc, au niveau de la gestion, on s'assure qu'on a les bons outils, qu'on donne les bons accès, qu'on s'assure d'une bonne utilisation de l'information selon les bonnes pratiques. Deuxième ligne de défense, fonction de gestion des risques. Gestion des risques qui sont en mesure d'évaluer les risques aux différents processus et puis de venir décliner les différentes activités qui sont nécessaires justement pour réduire les risques à un niveau jugé acceptable. En passant le risque zéro, moi, je crois pas à ça. Faut avoir de l'appétit également pour le risque. Faut pas en abuser, mais faut être en mesure d'en prendre justement pour performer. Donc, fonction de gestion des risques qui viennent aider la première ligne de défense à s'assurer que les activités sont en place et puis sont bien exécutées pour protéger l'information bout en bout. Et la troisième ligne, donc, les fonctions d'audit interne pour les entités qui sont en mesure de se payer un tel département. C'est pas un luxe. C'est eux autres qui sont capables de façon tangible d'aller voir justement si les activités qui réduisent les risques sont effectivement exécutées, les risques sont réellement réduits et l'information est réellement protégée de bout en bout.
Ben, c'est ça, l'audit interne, en tout cas, à mon point de vue, c'est le contrôle qualité qui s'assure que ce qui est exécuté est bien exécuté atteint les objectifs qui sont énoncés.
Oui, tout à fait. On appelle entre autres optimisation des ressources. On s'assure qu'on utilise les ressources de façon optimale pour justement réaliser les objectifs d'affaires, mais en même temps en ayant à l'égard la protection de l'information.
Dans notre contexte particulier, effectivement, c'est très important que l'information soit protégée puis qu'on ait une forme de quelqu'un. Quelqu'un qui nous rappelle régulièrement qu'on doit faire notre travail dans une direction qui sert les bienfaits de l'entreprise et non juste le fait de protéger pour le fait de protéger.
Oui, tout à fait. Quand on protège mal l'information, ce qui doit arriver, si ça peut arriver, ça va arriver. Et bien, il va y avoir des fuites d'informations, du vol d'informations, de la revente d'informations. Vous allez perdre la compétition, vous allez avoir des problèmes de réputation, voire même payer des amendes, le cas échéant, dépendamment de la gravité de ce qui s'est produit, puis la façon dont ça s'est. Et le contexte dans lequel les erreurs ont été produites.
À ce moment-là, le rôle de l'audit interne pour aider les entreprises à mieux s'équiper pour la protection des informations stratégiques?
Ben, je dirais pas de mieux s'équiper parce qu'on peut pas suggérer des méthodes ou suggérer des produits. Par contre, quand je réalise un mandat et puis on se rend compte qu'effectivement, ça arrive. Des fois, c'est comme le bouton qu'on a dans le milieu du front, on peut pas le manquer. On voit clairement qu'il peut manquer un outil. Souvent, on va s'attendre à avoir des plans de correction de la part du secteur qu'on a vérifié, qui pourrait aller jusqu'à transformer totalement le moyen dont il protège l'information. Et puis, ben, je dois donner mon opinion justement sur ce moyen-là. Je dois être prudent, surtout lorsqu'on fait l'acquisition, soit d'un service, soit d'un appareil, d'un logiciel, peu importe. C'est pas là-dessus que je vais émettre mon opinion. C'est sur la façon dont le secteur va appliquer le correctif que je vais juger justement approprié. En tant qu'auditeur interne, j'exigerai jamais la Cadillac pour protéger l'information, ou peu importe les mandats que je fais. Je ne peux pas exiger la Cadillac pour corriger le problème, pour en arriver justement à un risque quasi zéro. Mon rôle n'est pas là pour ça.
Tu vas évaluer l'efficacité du moyen et non la
solution.
Luxure du moyen.
Oui, en plein ça. En plein ça. Puis, dans une organisation qui, c'est sûr que l'audit interne, on nous voit un peu comme la police interne. Oui, c'est vrai, c'est exactement notre rôle. On est une forme de police, mais on n'est pas là pour taper ses doigts ou tout simplement mettre les gens, tirer les gens sous l'autobus. Si j'arrive avec un rapport qui est rouge, ben c'est dommage. Probablement que le gestionnaire dans lequel je suis allé faire mon audit, il savait très bien que ça allait sortir rouge. Je ne vende pas la roue. Moi, je fournis l'information au conseil d'administration. Mais mon rôle, entre autres, mes rapports peuvent être utilisés comme levier, justement. Ça peut aller jusqu'à l'embauche de nouvelles personnes dans le secteur. ça peut être un rehaussement de compétences, étant donné que les technologies avancent vite. Ça peut être l'acquisition de matériel aussi. Ça peut aller jusqu'à l'acquisition. Ça peut être un business case. J'aurais jamais, par contre, j'aurais jamais fait une recommandation à l'effet qu'on doit faire l'acquisition de, mais le secteur est capable d'utiliser mon rapport comme levier pour démontrer justement que pour régler les problèmes, ben, ça prend l'acquisition de ressources additionnelles.
Ah, ben c'est ça, c'est justement, c'est une. T'évalues pas, tu conseilles pas d'aller dans une direction spécifique, mais tu dis aux gens qu'ils doivent rehausser leur position, mais pas comment ils doivent la rehausser. Là.
En plein ça. Et puis à tout moment, quand je fais mes audits, je fais pas des rapports surprises. Quand je vois des lacunes, des problèmes, avant de statuer que c'est réellement un problème, mais je fais une présentation justement avec la gestion du secteur que je vérifie pour m'assurer que j'ai fait une vraie trouvaille et que je l'ai bien comprise aussi, qu'on l'interprète bien. Il peut arriver dans certains cas où ils vont accepter la problématique. Ils vont simplement l'accepter. Il va falloir me donner en tout cas des bonnes raisons. Puis ils doivent comprendre que s'ils l'acceptent, ça s'est déjà fait. Ben, c'est une information que je vais présenter au comité d'audit. Si eux autres, au comité d'audit, n'acceptent pas la mesure, ben là, à ce moment-là, le secteur va devoir s'expliquer, puis justement vendre leur salaire, puis donner des maudites bonnes raisons.
Ah, ben, de toute façon, c'est un risque. Fondamentalement, soit tu l'acceptes, soit tu le mitiges, soit tu le transfères. Fait que si tu l'acceptes, mais il faut que tu expliques pourquoi tu l'acceptes aussi. Là.
C'est ça.
Tout à fait.
Et voilà.
Et sur cette base-là, sur quel genre de référentiel tu te bases pour émettre tes opinions?
Ah, c'est pas une question. J'ai pas de référentiel pour l'émission de mon opinion. L'émission de mon opinion, c'est seulement sur mon c'est basé sur mon jugement. Par contre, ma métaux, la façon dont je travaille, dont je conduis mes mandats, pardon, je me base sur différents référentiels. Donc, je m'instruis, par exemple, avec le référentiel ITIL pour le fonctionnement de la majorité des services TI qu'on rend au sein d'une entité. Donc, quand je parle de services TI, les secteurs que je vérifie ne sont pas uniquement des secteurs TI, il y a des secteurs affaires également, mais le modèle ITIL s'applique également très bien dans certains secteurs affaires au niveau de la cohérence de l'information. Et puis, j'utilise énormément COBIT, COBIT 4.1. J'adore la façon dont les objectifs de contrôle ont été définis, puis la déclinaison des 200 quelques activités. Je ne dis pas que je passe un référentiel au complet quand je vais dans un secteur. Je ferai des mandats qui durent 360 jours, ça n'aurait pas de bon sens. Mais je prends mes critères de vérification vont se décliner justement souvent d'activités de contrôle qu'on va retrouver dans le COBIT. Donc, il y a beaucoup d'activités qui reviennent régulièrement. Quand on parle de protection de l'information, ben ça commence par les accès. Alors, tout ce qui est accès, je prends les contrôles et les activités que je juge importantes, surtout aussi selon le contexte de l'entité. Je ne débarquerai pas, par exemple, dans un secteur où le processus GIA, prenez un processus GIA qui est complet, s'il n'y en a pas, c'est pas vrai que je vais arriver avec une recommandation où je vais demander la mise en place justement du principe GIA. Ça va dépendre de par exemple, la fréquence du mouvement de personnel, la fréquence où on va augmenter, en fait, rehausser ou diminuer les accès des gens dans le secteur que je vais vérifier. Il y a tout un paquet de facteurs là. Fait que je vais prendre les activités que je juge importantes, que j'appelle mes contrôles forts.
Ouais, mais de toute façon, ça sert à rien d'évaluer. Quelqu'un qui n'est pas capable de courir à son capacité de courir, fait que de façon active, c'est un. Ça ne sert à personne.
Là. En plein ça. En plein ça. Ma métaux est toujours pareille. J'innove année après année. J'essaye d'innover, j'essaye d'être plus performant, je me re-questionne. Mais le fond, ma base, ça demeure COBIT.
Ouais, je sais, je connais ton amour pour COVID 4.1. Là, puis effectivement, il est plus terre à terre en termes d'applicabilité. Un peu moins gouvernance, mais quand même plus direct sur sa façon. Là, puis je me base justement dans certains autres contextes sur cette différence-là entre l'aspect très pragmatique de 4.1 et l'aspect plus gouvernance de 5. Puis des fois, je m'ennuie de 4.1, là, mais ça, c'est une autre histoire. Y a-tu d'autres cadres, peut-être réglementaires ou législatifs, dans lesquels tu t'appuies ou tu réfléchis autour d'eux?
Oh, écoute, il va y avoir la loi sur la protection des renseignements personnels, par exemple. On passe par à côté. Je m'appuie pas au sens strict de la loi, mais je sais que la loi peut être très punitive si on la respecte pas. Alors, il y a des éléments là, à l'égard de ça que je vais valider. Ah, il y a le PCI-DSS également là, pour les cartes qui sont faites un référentiel pour dépendamment de la quantité, de la fréquence de transactions par carte de crédit que l'entité va opérer, par exemple. Je sais qu'il y a des contrôles que je trouve intéressants aussi là-dedans, là, que je vais appliquer dans certains contextes. Et bien entendu, tout ce qui est rapport tiers, SOC 2, NCMC 3416, ISO 27001, un petit peu, mais au niveau des rapports tiers, il y a des éléments que je vais réutiliser également là-dedans. Quelques éléments du BCIF aussi que je peux mettre à profit. Encore là, ça va dépendre du contexte dans lequel je fais ma vérification.
Ah ben c'est ça, c'est la vérification est toujours contextuelle là, dans quel environnement tu te trouves, et comme tu as fait plusieurs environnements différents, tu as dû adapter tes différents règles face à ce genre de choses-là. Puis si on parle peut-être de contexte un peu plus concret, étant donné que, comme j'ai mentionné, mais je ne sais pas au début, il y avait l'avoir Isaka qui avait abordé l'info nuagique prochainement. As-tu des réflexions à ce sens-là?
L'info nuagique, en fait, en termes d'audi, je vais dire non, j'ai pas. Si l'entité qui veut offrir un tel service, la compagnie InfoNuagique veut offrir, je ne sais pas moi, disons, de l'infrastructure ou des services ou des systèmes, du transactionnel, peu importe, ben pour être sexy, ça prend l'émission d'un rapport. Ça prend l'émission d'un rapport sur son contrôle interne. Comme je viens de mentionner, un rapport de type SOC 2, je pense que c'est le meilleur rapport selon moi. Il est plus... Il touche énormément, en fait, on peut mettre toutes sortes de choses dedans. Il n'est pas nécessairement financier, comme le NCMC 3416 ou anciennement le fameux 5970, mais il va toucher les opérations TI de façon assez large chez l'entité, puis son état de santé, en fait. Puis c'est réalisé par un auditeur externe dans ce cas-ci et non de l'audit interne. Qui sont en fait l'audit interne, l'audit externe, on est cousins, hein? On fait sensiblement le même travail. Nous, on est au niveau de nos processus à faire pour notre business à l'interne. Notre auditeur externe, c'est pour les états financiers, nos méthodologies se ressemblent, sont quasiment pareilles, surtout d'un point de vue TI, là. Alors, pour une entité qui va offrir du service dans l'info nuagique, est-ce qu'ils vont fournir un rapport sur l'état de situation? Deux, assurez-vous d'avoir un contrat béton. Un bon partage des responsabilités. Et puis, que il faut que le wording soit également, tout soit dedans. Et puis, assurez-vous sur les exclusions que l'entité ne pourra pas appliquer comme contrôle, par exemple, parce que nous autres, on va pas, la compagnie qui signe va probablement devoir mettre en place des contrôles compensatoires ou simplement des contrôles forts en ajouté parce que l'entité, le service tiers ne les offrira pas. Fait qu'attendez-vous beaucoup là-dessus, là.
Ah, mais de toute façon, ultimement, comme auditeur interne, tu vas exiger, ou du moins, peut-être pas exiger, mais demander que le fournisseur de services infonuagiques vous fournisse un rapport qui est équivalent. C'est un peu ce qu'on voit dans les services, j'imagine similaire dans les services impartis.
Oui, oui, tout à fait. Les services impartis, mettons qu'on veut ça à l'égard des états financiers, ce que j'ai vu régulièrement, c'est il y a des compagnies spécialisées dans la gestion de fonds de retraite. Donc, je travaille pour une institution financière, j'ai un programme de fonds de retraite pour mes employés, mais je veux pas payer les outils et puis les compétences pour le gérer à l'interne. Ça revient moins cher, dans certains cas, d'envoyer ça à l'externe. Bon. Étant donné qu'on parle de beaucoup de déplacements d'argent, l'auditeur externe, quand il va venir faire les états financiers, ben il va nous demander comment est-ce qu'on s'assure justement que l'information est complète, est intègre puis véridique quand la compagnie nous retourne des rapports qu'on doit injecter dans notre système de grands livres, par exemple. Alors ça, ça se fait par le biais d'un NCMC 3416. Il y a deux types. Il y a le type générique, donc pour tous les clients de la gestion de fonds de retraite, on va faire une base commune sur les activités de contrôle et on doit inclure également des contrôles sur les transactions financières pour s'assurer qu'elles sont bonnes et exactes. Mais on peut en demander un spécifique. Donc, si on veut s'assurer pour nous comme entité que les contrôles sont bien appliqués pour nous, ben on peut demander un spécifique. Ça coûte un peu plus cher, mais l'auditeur externe, quand il exécute le travail pour faire le rapport durant l'année chez le fournisseur tiers, ben il va s'assurer que dans sa sélection de tests, des transactions qui nous touchent directement sont dans la sélection, effectivement, pour être justement testé explicitement.
Ouais, ça, essentiellement, ce que tu dis, c'est que même si on est parti dans l'info nuagique, on ne pèlte pas rien à l'extérieur, on garde quand même le degré de contrôle, on doit quand même assurer un certain nombre d'informations.
Oui, tout à fait. On s'assure que le fournisseur va appliquer notre règle de protection. Ben, minimalement, il va appliquer notre degré de protection à l'intérieur de son infrastructure. C'est pas toujours le cas, mais on peut mettre on peut exiger des contrôles supplémentaires. Et puis deux, ben, on veut s'assurer que le service d'info nuagique fait pas affaire avec un autre service d'info nuagique, etc., etc., où on perdrait la trace d'information. Une information bien protégée, on sait d'abord où se trouve cette information-là. Si le fournisseur se met à la véhiculer à gauche puis à droite parce qu'elle impartit d'autres services, ben là, ça ne marchera pas. Ou, du moins, il faudrait qu'on soit au courant.
Oui, effectivement. C'est parce que certains, justement, fournisseurs infonuagiques, en tout cas, que proclament infonuagiques, ne sont que des relais dans un grand réseau d'infonuagiques. Fait que la dématérialisation de l'information se trouve vraiment répartie dans l'ensemble. Puis, mettons que certains technologues oublient que le cadre juridique n'est pas aussi souple que le cadre informatique.
Effectivement. Alors, écoutez, méfiez-vous. Pesez la question. L'info nuagique, ça a beaucoup d'avantages. Ça crée des opportunités, c'est vrai. Mais assurez-vous de respecter, que ça respecte vos politiques à l'interne, que vous respectez la réglementation auquel vous êtes assujetti également. Là.
Ouais, ben c'est ça, c'est pas un free lunch. C'est sûr que des yeux de gens TI, ça a l'air d'être un free lunch parce qu'on catapulte du traitement ailleurs, mais dans la réalité des organisations, la réalité juridique, et dans ton cas spécifique au niveau de la vérif interne et donc des états financiers, on peut pas catapulter aussi facilement que ça les choses à l'extérieur.
Plus de nos jours, non. Plus à cette heure.
C'est amplement surveillé, puis de toute façon, on peut pas déléguer ce genre de choses-là aussi facilement.
Non.
As-tu d'autres exemples de mandats qui, dans ce contexte-là, s'appliquent au niveau de ce que tu fais?
Ben, écoutez, les mandats, je peux les déblatérer un à la suite de l'autre, là, les accès. tout ce qui est bring your own device, ou plutôt. Laissons tomber Bring Your Own Device. Si vous permettez l'utilisation de tablettes ou de téléphones intelligents, qui appartiennent ou non à la compagnie ou à l'employé, c'est un autre moyen de faire disparaître l'information aussi. Assurez-vous de garder un certain contrôle sur les appareils qui sont utilisés par vos employés. Et puis.
Mais Bring Your Own Device, puisque tu ouvres la parenthèse. D'un point de vue vérif interne, qu'est-ce que vous allez regarder effectivement sur cette politique qui permet aux gens d'amener des périphériques mobiles à l'intérieur du réseau sacro-saint de l'entreprise?
Ben, on va regarder, première des choses, on va regarder comment je dirais bien ça, parce que là, il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut regarder. Ben, première des choses, est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est la première question.
C'est
la première
très bonne question.
Est-ce que c'est nécessaire? Donc, est-ce qu'il y a un besoin de mobilité? Deux, est-ce qu'on va utiliser des outils? Des outils encapsulés, par exemple, donc qui font la séparation entre l'utilisation personnelle, l'utilisation professionnelle, qui permettent un certain contrôle. Deux, c'est quoi l'énumération des différents outils c'est quoi les outils qui peuvent être installés sur ces appareils-là? Est-ce que ces outils-là, justement, c'est pour ramener de l'information sur l'appareil pour qu'elle soit traitée? Est-ce que c'est tout simplement une interface de connexion à distance? Ça peut être ça également. Est-ce qu'il y a de la protection? Est-ce qu'il y a du chiffrement? Qu'est-ce qu'on fait quand l'employé quitte? Est-ce que c'est pas vrai qu'on va wiper le téléphone? Mais pensez à ça, c'est qu'à un moment donné, l'employé, il va prendre sa retraite, il va s'en aller, vous allez le congédier, mais vous faites quoi à la suite de ça avec les appareils? Qu'est-ce qui vous assure justement que les outils qu'il a utilisés, puis l'information qui pourrait être contenue, vos informations stratégiques qui pourraient être contenues sur ces appareils-là, le soient pas encore, là. Il faut que ça soit détruit, ça. Fait que c'est un petit peu la tangente que je prendrais. Mais la première vraie question, c'est vraiment, là, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis deux, est-ce que c'est pour de l'accès à de l'information stratégique? Des fois, on, si c'est pas le cas, le risque est moindre à ce moment-là. Là.
Effectivement. De toute façon, la première question initiale, c'est pourquoi?
Ouais.
Si on est capable de répondre au pourquoi, généralement, ça va bien. Si on n'est pas capable de répondre au pourquoi, ça va généralement un peu moins bien.
Puis le dernier mandat, là, parce qu'il y en a toutes sortes, là, que je voudrais parler, c'est un mandat que j'ai fait dernièrement sur la gestion des dérogations aux directives de sécurité. Une directive va être rattachée à une politique, une loi, un règlement. On veut, dans certains cas, contourner la réglementation pour toutes sortes de raisons ou pour toutes sortes d'excuses. Okay? Il y a les deux cas. Le mandat le plus tangible sur la protection de l'information que j'ai fait, c'est justement sur la gestion des dérogations. Pour se rendre compte que l'information stratégique pouvait être copiée, recopiée, sans être dépersonnalisée, à gauche, à droite, au vu et au su des gestionnaires, mais sans qu'il y ait l'automatisme de se dire « Oups, qu'est-ce que je viens d'autoriser là? » Ce que j'ai réalisé, c'est que c'était des autorisations totalement candides pour justement... accélérer l'échéancier, réduire les coûts, mais les risques étaient largement augmentés à l'égard de la protection. Il n'y avait pas, en fait, dans plusieurs cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup moins de protection dans des environnements d'essai, environnements d'assurance qualité, développement, etc. Mais la question encore, c'est pourquoi on a retrouvé des données personnelles, confidentielles, stratégiques dans ce type d'environnement-là, qui était moins protégé puis accessible à des gens qui ne sont pas autorisés normalement dans le cadre de leur fonction.
Non, mais tout à fait, puis ça, je suis d'accord. Puis j'adore ton terme candide. Est-ce qu'il y a un manque de compréhension des gestionnaires du risque à quel ils exposent les données dans lesquelles ils sont responsables?
Non. C'est plutôt un manque d'éducation. C'est d'avoir le réflexe, hein, l'automatisme de dire wow, pourquoi vous voulez ça de même? Pourquoi c'est si important de réduire les coûts? C'est sûr, vous voulez faire du développement, vous voulez ajouter des fonctionnalités. La meilleure façon de tester, c'est de tester avec des vraies données. C'est ce qui est le plus proche de la réalité. Oui, c'est vrai, mais c'est des développeurs à qui vous autorisez un accès à des données qui n'ont pas accès habituellement. Il faut faire une gestion serrée. Deux, il faut rajouter des contrôles. Trois, ce que j'ai souvent vu, c'est que l'environnement qui était utilisé, mais il était utilisé par plusieurs autres groupes de développeurs. Donc, l'accès initial, la porte d'entrée, était accessible pas à 7 ou 8 personnes qu'on retrouvait dans le formulaire, mais à 200. Fait que ça vient changer la game énormément. Là.
Ah ouais,
c'est...
Oui.
En fait, ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est sûr que le gestionnaire, on va y présenter une facture, mais si tu veux qu'on fasse ça selon les règles de l'art, ça coûte tant. Si tu veux qu'on contourne, ben ça va coûter encore moins cher.
Ouais, c'est
la pas du gain.
Ouais, mais au-delà de la pas du gain, je pense que c'est la fameuse dualité entre les TI et les affaires, où, parce que la vraie responsabilité au niveau des affaires et les raccourcis sont présentés par les TI.
Oui, effectivement. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que les formulaires étaient très clairs. La réglementation était également claire et énoncée dans les directives, et puis de façon candide, c'est l'automatisme de se dire un instant, on va payer plus cher, mais vous allez travailler autrement. C'est pas vrai qu'on va laisser mes données de production dans votre environnement juste parce que c'est plus facile pour vous. Fait que je pense que c'est un petit problème, c'est un petit problème d'éducation.
Bah, c'est sûr que c'est un problème d'éducation parce que toutes les gestionnaires, en tout cas du moins, ce que j'en comprends, les gestionnaires qui nous entourent ne sont pas dans un univers qui ont évolué autant que nous autres, on peut évoluer avec ce genre de choses-là. Ils comprennent la nature du risque à laquelle ils exposent leurs informations dans le temps où c'était peut-être un peu moins automatisé.
Oui, effectivement.
Un énorme travail d'éducation à faire, encore.
Oui, ben oui, c'est sûr. Ben, l'audit interne, on est là pour ça. Hein? On a un rôle, justement, d'éducateur par nos mandats, par nos rapports, les entretiens qu'on a. On est des conseillers également, on n'a pas réponse à tout. Mais si ça arrive qu'il y a des secteurs qui me lâchent un petit coup de fil, puis ils veulent changer de méthode, puis ils me la posent la question, pourrais-tu faire ça de telle façon? Ben, un, c'est pas oui ou non, parce que c'est bien facile, après ça, de faire une note, l'audit interne a accepté qu'on fasse ça de même. Non. C'est pas, moi, je veux pas qu'on me tire sous l'autobus de cette façon-là, mais je suis capable de conseiller puis d'évaluer les gens puis de rester tout de même indépendant au travers de ça.
Oui, mais c'est ce qui est important. De toute façon, l'audit interne est un, comme tu mentionnes, n'a pas juste un rôle de police, c'est un rôle d'éducateur aussi.
Oui.
Mais c'est un rôle, la police ne vient que si l'éducation n'a pas fonctionné et que la personne n'a pas voulu écouter.
Oui, c'est aussi simple que ça. Ouais.
C'est-à-dire, parce que la mission première, c'est vraiment d'éduquer, d'amener les gens à une meilleure compréhension, de les amener à saisir la réalité. Puis, ben, s'ils finissent par pas vouloir écouter les règles, ben, à un moment donné, c'est là que le rôle de police arrive, là, malheureusement.
C'est là où je mets mon chapeau, mes lunettes fumées, puis je sors la matraque. Ben, c'est pas compliqué. Ma matraque, c'est mon rapport. Je vais juste peser plus fort sur le crayon, si le secteur n'écoute pas.
C'est pas souhaitable, mais des fois, parfois, nécessaire d'y aller jusque-là.
Ouais. Yes, tout à fait.
Sur ça, as-tu d'autres points que tu aimerais mettre de l'avant?
Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ceux qui n'ont pas assisté, ben, je pense que tu vas déposer la présentation. C'est-tu accessible à tous, ça?
Elle va être accessible sur le site de la SIC. Fait que vous aurez juste à cliquer sur le joli visage de Vincent et vous serez amené vers une page où vous pourrez cliquer sur le lien où vous pourrez accéder à la présentation. Fait qu'elle devrait être, au moment de la diffusion du podcast, elle devrait être disponible.
Bon, ben excellent. Écoutez, bonne lecture et puis voilà. J'ai pas la science infuse. Comme je dis, ça fait 14 ans que je fais ça. Puis je répète les mêmes mandats pas mal de la même façon à chaque fois. J'essaye d'innover comme n'importe qui pour performer davantage puis découvrir des nouveaux trucs. Mais prenez pas ça comme de la science infuse parce qu'il y a place à amélioration et innovation. Mais bonne lecture.
Mais de toute façon, comme toute chose, il faut mettre en contexte. Et une fois qu'on est capable de mettre en contexte, on est capable d'en tirer les bons enseignements, comme tu fais de toute façon avec les différents cadres normatifs et réglementaires sur lesquels tu t'appuies. Fait que, jamais rien ne doit être pris tel quel et appliqué tel quel.
Moi, ouais, en plein ça.
Ben, c'est bien. Moi, j'ai été énormément éduqué à travers ce genre de cette conversation-là. J'ai très apprécié.
Oh, ben, je t'en prie.
Et sur ce, on conclut.
Ben, pour une bonne protection de vos informations, mes chers auditeurs, sachez où scaler votre information. Détectez-la, trouvez-la, faites-en un inventaire, puis faites l'exercice d'appliquer une valeur à cette information-là. Faites l'exercice et puis dans un des scénarios possibles, celui qui risque de se produire le plus régulièrement, c'est de vous rendre compte qu'elle n'est pas tout le temps protégée à la hauteur de leur valeur ou de leur sensibilité, l'information. Assurez-vous qu'elle est bien protégée et qu'il n'y a pas de fuite.
Superbe. Alors, cheers!
Yes! À la prochaine!